Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous vous posez des questions sur les liens entre notre alimentation et les enjeux sociétaux et environnementaux, vous êtes au bon endroit. À quoi servent les circuits courts? Sont-ils vraiment vertueux? Peut-on encore boire de l'eau du robinet? Faire confiance au label bio? Est-on crédible à parler bien-être animal quand on est éleveur? Ce sont toutes ces questions, et bien plus encore, que nous passons sur notre grill. Ce podcast vous est présenté par Fanny Giancetto, cofondatrice et présidente d'Écotable. Écotable est à la fois un label et une communauté de restauration durable. Notre objectif est de permettre à toutes et à tous de choisir des restaurants éco-responsables, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale de la restauration en offrant des prestations de conseils sur mesure. Pour nous soutenir, vous pouvez noter ce podcast 5 sur 5, vous abonner, suivre Écotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans nos restaurants vertueux et délicieux. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une branche importante de la restauration, la cantine scolaire. De la maternelle au lycée, ce sont plus d'un milliard de repas qui sont servis chaque année à 12 millions d'élèves. Cette alimentation est d'autant plus importante qu'elle est offerte à tous les enfants, sans distinction de revenus. Cependant, la qualité de ces repas est décriée. Le fonctionnement des cantines contraint bien souvent celles-ci à acheter du tout préparé, faute de place et de moyens. Ce sont alors des repas industriels, trop salés et sucrés, qui sont servis aux enfants. Les teneurs en protéines y sont trop élevées et les options végétariennes encore trop rares. À cela s'ajoute le gaspillage alimentaire, puisque c'est environ 25% d'un plat servi à la cantine qui est jeté. Au regard de ce constat, on n'est pas surpris d'apprendre que seulement 23% des enfants auraient une alimentation saine et variée. Alors qu'en est-il réellement? Que mangent les enfants aujourd'hui à la cantine? Pour en parler, je suis avec Sandra Franc-Renet, journaliste et auteure de Le Livre Noir des cantines scolaires. Bonjour Sandra.
Bonjour Fanny.
Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous parler un peu de votre livre?
Bien sûr. Alors donc, Sandra Franc-Renet, je suis journaliste, pigiste, donc je travaille pour plusieurs magazines, plutôt en presse écrite web. Et je me suis intéressée à la cantine scolaire à double titre, en tant que maman et en tant que journaliste. En tant que maman, à l'époque, ma fille était en CE2 et puis c'est vrai qu'elle se plaignait de la cantine scolaire. Et moi, je lui répondais que c'était normal, que c'était un mauvais moment à passer parce que moi-même, j'avais des souvenirs étant enfant de cantine. Voilà, on a tous, d'ailleurs, c'est drôle parce que dès qu'on lance les gens sur la cantine scolaire, il y a tout plein de souvenirs comme ça qui reviennent.
C'est vrai, c'est vrai.
Un tel, c'est les brocolis, d'autres, c'est les salsifis, les choux de Bruxelles. Enfin bref, ouais. Quoi, chacun va de son petit, de sa petite madeleine. Et donc voilà, je disais bah oui, mais moi en même temps, j'aimais bien la cantine parce que c'était un moment où je me retrouvais avec mes copains, mes copines, on pouvait parler. Donc je n'aurais pas aimé ne pas y aller parce que voilà, c'était
parce
pour moi
c'était
la nourriture,
bon.
C'était secondaire. Et bon, quand même, à force que ma fille se plaigne, et puis il y avait un papa de l'école aussi dont les filles se plaignaient, on s'est dit bah on va aller y déjeuner.
Ce qui est possible, on peut y aller.
Alors écoutez, moi j'écoute certains parents qui me disent que c'est compliqué, qu'il y a des réticences, mais normalement, à partir du moment où on paye le plat, le repas, on est censé pouvoir déjeuner, prévenir à l'avance, etc. Donc en tout cas, moi j'ai pas rencontré de grosses difficultés pour y déjeuner. Et là, effectivement, j'ai pas mangé le plat. Parce que alors déjà c'était un plat à base de thon chaud et voilà, moi déjà rien que l'odeur ça me retourne. En plus j'ai été malade une fois, bref je vous épargne les détails, mais déjà ça n'a pas été possible.
Mais il y avait qu'un seul choix, c'était que ça.
Oui alors en primaire il y a un seul choix. Et ce qui m'a surprise, c'est que quand moi j'étais petite, j'avais le souvenir des cantinières, on était assis à table, les cantinières arrivaient avec leurs gros chariots, leurs louches, les plats en inox, elles nous servaient. Là, c'était un self. Donc ma fille à l'époque était en CE2, elle était plus si petite, mais je voyais les petits bouts de CP avec leurs plateaux là. Et surtout, ce qui m'a le plus étonnée, c'est que les dames de cantine, les cantinières, servaient les repas donc derrière un rayonnage, mais c'était des barquettes en plastique qu'elles ouvraient. Donc, barquette en plastique, opercule en plastique, elles ouvraient ça devant les enfants. Elles servaient à la louche, donc vraiment en plus pas appétissant du tout. Nous, comme on était adultes, on avait une portion, donc on nous a carrément donné une portion individuelle en plastique, enfin comme quand on achète un plat préparé au supermarché.
Ouais.
Oui. Et donc, effectivement, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même hardcore, quoi. Ça s'est pas amélioré depuis que moi j'y étais, voire même.
Empiré. Et est-ce que vous voyez autour de vous les enfants qui ne mangeaient pas, du coup, beaucoup de gaspillage dans les assiettes?
Alors, moi, ma fille, ayant très bon appétit, n'était pas une gaspilleuse. C'est-à-dire qu'elle se plaignait que c'était pas bon, mais elle faisait partie des enfants qui mangeaient. Alors que le papa qui était venu déjeuner avec moi, lui, était venu parce que ses enfants ne mangeaient pas. Parce que c'était des plats en sauce, et après je vous expliquerai, on déroulera le fil pourquoi ce sont des plats en sauce et compagnie, mais voilà, beaucoup d'enfants n'aiment pas les plats en sauce, et donc il y a, en tout cas dans cette cantine, on va dire même dans cet arrondissement, puisque voilà, ce sont tous les enfants du 18e arrondissement qui étaient concernés, puisqu'ils mangent tous la même chose, il y a énormément de gaspillage. Et donc je me souviens qu'au même moment, je réalisais un article pour les dossiers du Canard Enchaîné sur la malbouffe, et je leur avais dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un papier sur la cantine scolaire? Au même moment, il y avait un conseil de restauration qui invite donc régulièrement des protagonistes donc de la caisse des écoles, donc de la mairie, le prestataire privé et puis des parents d'élèves à venir se réunir pour discuter autour des plats. Et là donc moi par curiosité j'y vais, donc toujours avec cette double casquette. Et là, je découvre des parents remontés comme des coucous qui visiblement n'en étaient pas leur premier conseil contrairement à moi. Et qui était là parce qu'en plus le mandat du prestataire privé on réexpliquera un petit peu le fonctionnement,
oui,
hein. Mais voilà, le mandat du prestataire privé arrivait à échéance, allait être lancé un nouveau cahier des charges pour le prochain cycle de 5 ans, et donc les parents étaient là en se disant, il faut absolument qu'on travaille parce que cette nourriture n'est plus possible.
D'accord.
Et c'est là qu'a commencé l'aventure.
Ok. Alors réexpliquez-nous comment ça fonctionne les cantines scolaires.
Voilà. Alors les cantines scolaires, en fait, Il y a deux types de fonctionnement. Il y a soit ce qu'on appelle la régie directe. Alors, je suis désolée, c'est des mots un peu techniques. La régie directe, c'est-à-dire que la collectivité gère en direct sa cantine. C'est elle qui détermine les menus, c'est elle qui s'occupe des approvisionnements. Enfin, c'est elle qui gère tout de A à Z. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on a ce qu'on appelle la délégation de service public, DSP, où là, en fait, c'est quand la collectivité n'a pas les compétences, n'a pas l'envie, n'a pas le temps, que sais-je, décide donc de déléguer cette prestation à un prestataire privé. Donc, on connaît les grands prestataires privés les grandes sociétés de restauration collective, c'est-à-dire la Sogeres, Sodexo, Compass, ça, ce sont les plus gros. Et puis après, voilà, il y a Elior aussi. Et puis après, voilà, il y a tout un tas de petites SRC, sociétés de restauration collective. Nous, en l'occurrence, dans le 18e, c'était la Sogeres, donc filiale de la Sodexo, qui avait le mandat depuis déjà, je crois, 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, enfin, en tout cas, plus de 10 ans, et donc qui repostulait. Et donc, il y avait des plaintes d'enfants, de parents qui disaient, mais c'est plus possible, il faut qu'on change cette alimentation. L'autre souci, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était le fait que les plats étaient conditionnés et réchauffés dans des barquettes en plastique. On sait aujourd'hui que le plastique, est composé en partie de perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'alimentation, a fortiori quand on les réchauffe, et là c'était le cas puisque ces barquettes ne se contentaient pas de conditionner ces plats en attendant voilà qu'ils soient acheminés, mais en plus de les réchauffer.
Je précise que les perturbateurs endocriniens sont donc des perturbateurs de nos hormones qui viennent se fixer sur nos hormones et les perturber, qui sont responsables de cancer, diabète et autres maladies auto-immunes.
Absolument.
Ce qui est notamment très problématique du coup pour les enfants qui sont soumis dès le plus jeune âge à ces
perturbateurs. Absolument, puisque justement n'ont pas encore fait leur puberté, donc ça peut vraiment jouer au moment de la puberté. Donc il y avait ça. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouvait donc avec des plats conditionnés dans des barquettes en plastique? Vous allez me dire, mais pourquoi c'était pas cuisiné à côté comme quand on était petit?
Oui, et pourquoi la ville de Paris n'arrive pas à gérer ça en direct?
Alors,
ne
en
veut
fait,
pas gérer
alors,
direct.
Alors, petit bémol, le 18e arrondissement de Paris est le seul arrondissement en délégation de service public.
Ah.
Tous les autres sont en régie directe. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a des cuisines dans toutes les écoles. Mais en tout cas, il y en a plusieurs. Donc, en tout cas, on n'était pas le seul à avoir des soucis de barquettes en plastique. Mais alors, la particularité du 18e, puisqu'on cumule tout, hein, sinon c'est pas drôle, c'est que, donc, à la fois, on est un des arrondissements les plus peuplés de Paris, c'est 14 000 repas jour, le 18e arrondissement, ce qui est à peu près équivalent avec le 13e, le 15e et le 19e. On est, en termes de population d'enfants, à peu près similaire. Donc, malgré tout, nous étions, nous sommes encore les seuls à être en délégation de service public. Et puis, nous n'avons qu'une seule cuisine centrale, c'est-à-dire que tous ces repas sont cuisinés dans un seul endroit. Une cuisine centrale qui est ancienne, qui est vétuste, qui n'est plus du tout adaptée, et donc qui cuisine chaque jour 14 000 repas. Et ensuite, ces 14 000 repas, il faut évidemment les acheminer. Et donc, ils sont acheminés. Alors, ils sont cuisinés 3 à 5 jours avant la consommation.
Et ça, vous le saviez? Donc, vous l'avez découvert.
Justement, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce que petit à petit, en fait, on a tiré un fil et on s'est dit, mais c'est pas possible. Et à mesure qu'on découvrait les choses et qu'on tombait littéralement de nos chaises, je me suis dit, mais en fait, il faut écrire ce livre parce qu'il faut que les parents soient au courant de ce qui se passe. Alors, attention! Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les cantines. Il y a des cantines où ça se passe très bien, il y a des cantines où les enfants mangent très bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'après l'apparition du livre, j'ai eu quelques témoignages de gens qui m'ont dit « Ah, mais vous savez, nous, dans notre cantine, enfin des chefs qui ont pu me contacter. » Évidemment, hein, moi, j'ai pointé du doigt ce qui n'allait pas, tout en évoquant quand même, mais j'avoue assez rapidement qu'il y avait des cantines où ça se passait très bien, mais j'ai envie de dire où ça se passe très bien, tant mieux. Moi, je voulais alerter les parents sur là où ça pouvait être dangereux et de leur dire voilà comment ça peut, voilà le fonctionnement de la cantine, donc délégation de service public, régie directe, cuisine centrale, cuisine sur place, en leur donnant un peu toutes les indications, en leur disant maintenant, vous, allez voir comment ça se passe chez vous, pour agir si c'est indispensable.
Ouais, bien sûr. Alors j'aimerais qu'on retrace justement ce fil que vous avez tiré après le repas que vous avez partagé avec votre fille et avec cet autre papa. Qu'est-ce qui se passe après? Comment vous en arrivez à connaître les rouages du système?
Alors ça se passe pas tout de suite parce que j'y mange, je me dis waouh, c'est vrai, c'est pas bon, mais bon en fait, j'avais pas de solution. Mais comme la plupart des parents, mais quand même, c'est resté dans un coin de ma tête. Et donc voilà, il y a ce numéro spécial sur la malbouffe qui sort. Je me dis, tiens, il faut faire un truc sur les cantines. Je vais à ce fameux comité. Et là, en fait, ce qui a changé, c'est que d'habitude, les parents arrivaient et repartaient. Et là, on a fait circuler une liste, on a échangé nos mails. Et ça a été le point de départ de la création d'un collectif qui s'appelle encore aujourd'hui le collectif Les Enfants du 18 mangent ça. Mais qui avait quand même trouvé son origine avec une personne qui s'appelle Anne Renaudy, que je salue, qui elle, quelques mois auparavant, et c'est vrai qu'elle avait participé à mon alerte, elle avait réussi à prendre des photos des repas. Et elle les postait sur Facebook. Et ça, en fait, si vous voulez, ça a été vraiment important parce que dans la tête des gens, le matin, quand ils déposent leurs enfants à l'école, ils regardent le menu, et sur le menu, c'est toujours bien marketé. C'est émincé de petits pois façon machin, sauce poulard, voilà. Donc le matin, et pour un peu qu'il y ait quelques logos bio, label, machin, on se dit waouh, mon enfant il mange super bien. Donc en fait les gens voilà regardent, jettent un œil, tiens mon enfant mange ça, super. Mais quand on voit la photo et qu'on compare l'intitulé et la photo, on se dit ah ouais, il y a quand même un sérieux problème. Donc ça voilà, ça avait déjà commencé dans ma tête et je me souviens, j'avais envoyé un mail à Anne en lui disant ah bah j'ai vu vos photos, à l'époque on se voyait. J'ai vu vos photos effectivement, il y a quelque chose à faire, enfin c'est pas normal que nos enfants mangent ça. Je la rencontre à ce fameux collectif et là donc on s'échange nos mails et là on se dit c'est pas possible, il va y avoir donc un renouvellement donc du prestataire, il va y avoir un nouveau cahier des charges, il faut qu'on agisse, il faut qu'on propose des pistes d'amélioration. Sauf que là on s'est quand même pris un mur de la part de la mairie qui à l'époque a pris notre démarche pour une démarche de parents, de bobos, de bobos qui disent « Mais écoutez, nos enfants, les enfants ne se plaignent pas, les parents ne se plaignent pas, vous êtes les seuls, voilà. » Et nous, ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on a rencontré une nutritionniste que je salue encore, qui s'appelle Valérie Jacquier, qui est une nutritionniste très engagée, et qui a accepté de nous aider à travailler sur le cahier des charges, bénévolement.
Parce que ce cahier des charges, il est établi par qui?
Bah, en fait, le cahier des charges est établi par la collectivité, mais nous, en fait, on a déjà, je me souviens même plus si on l'a eu ou pas, mais en tout cas, on avait fait des propositions dans voilà là où il faut que ce soit amélioré. Par exemple, je sais même plus si on avait parlé des barquettes déjà à l'époque, mais déjà on disait oui, les produits industriels doivent être limités. Mais en fait, limité, ça veut rien dire. Mm-hmm. Nous, on voulait mettre des chiffres, voilà. Enfin, on avait fait comme ça des propositions, mais qui sortaient pas de notre chapeau, qui étaient vraiment le fruit d'une concertation avec une nutritionniste habituée à travailler sur ces questions-là. Et on les avait transmis à la mairie, qui n'a quasiment rien repris, qui nous a pris à l'époque avec quand même beaucoup de dédain, on a eu beaucoup de mal à rencontrer le maire. Alors on a lancé une pétition au mois de janvier 2017, si je ne vous dis pas de bêtises. Non, janvier 2018, pardon. Puisqu'en fait, voilà, cette rencontre a eu lieu en hiver 2017. Et en janvier 2018, on lance une pétition qu'on adresse à la mairie, aux élus, enfin donc à Madame Hidalgo, la maire de Paris, à notre maire Monsieur Lejoindre, et puis voilà plusieurs élus en leur disant voilà ce qui se passe dans les cantines, voilà le danger, en disant voilà vous ne pourrez pas dire que vous ne pourrez pas savoir, et quelque part en leur disant même voilà vous empoisonnez nos enfants parce que à coup de nourriture industrielle, à coup de barquettes en plastique, etc., etc. On a recueilli quand même 7000 signatures. Madame Hidalgo ne nous a jamais répondu, même encore aujourd'hui, hein, on n'a jamais eu de réponse, elle ne nous a jamais reçu. La mairie du 18e a fini par nous recevoir, mais ça a été très compliqué. On a encore une fois été accueillis avec beaucoup de mépris, je dirais, le maire ne voyait pas où était le problème, ça a été très compliqué. Le cahier des charges a été lancé pour 5 ans à nouveau. Nous, ce qu'on demandait, c'était qu'au moins ce soit revu à 3 ans. On avait conscience qu'on pouvait pas changer comme ça un système en 2 coups de cuillère à peau, mais au moins dire, écoutez, au lieu de relancer une prestation pour 5 ans, faisons-la sur 3 ans, travaillons ensemble pour revenir à une régie directe, puisque c'était une de nos revendications. Nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait de nouveau des cuisines dans les écoles. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Et puis, notre collectif a pris de l'ampleur. J'ai écrit ce livre, donc j'ai tiré tous les fils. Alors peut-être on reviendra sur certains détails, vous me direz. Et quand le livre est sorti, donc en septembre 2018, il a été beaucoup médiatisé.
Vous l'avez écrit rapidement, du coup.
Très rapidement, parce que voilà, j'avais conscience qu'il fallait que ce soit rapide. C'était un sujet qui était dans l'air du temps. Il fallait pas rater le coche non plus, parce que quand on parle d'un sujet, bah voilà, une fois qu'on en parle plus, c'est trop tard. Et là, c'était voilà, il y avait vraiment une émulation autour de ce sujet, une prise de conscience. Donc, et quand le livre est sorti, ben, le 18e a quand même été pointé du doigt beaucoup, comme l'un des arrondissements où on mangeait le plus mal à Paris. Et en tout cas, un arrondissement, en plus, on y mangeait et mal et cher, puisque c'est très compliqué de connaître le coût d'un repas, hein. C'est très peu transparent. Et on a vu que, on va dire, à élève égal, on payait 1 euro de plus que dans le 13e. Donc voilà, on se dit, mais attendez, comment ça se fait? On mange pas bien et en plus, on mange plus cher.
C'est
voilà. Donc voilà, tout ça mis bout à bout a fait que la mairie n'a pas pu faire comme si il n'y avait pas de problème. Elle a lancé une concertation, voilà, avec des commissions, tout ça. Bon, qui est que, voilà, on a brassé beaucoup d'air. Mais sont arrivées les élections municipales de 2020, et là, les cantines, et vous l'avez sans doute remarqué, ont été un enjeu dans beaucoup, beaucoup d'endroits, hein, pas seulement à Paris, pas seulement dans le 18e. Et donc là, la mairie, le maire sortant, a bâti toute une partie de son programme sur la cantine et sur des scénarios de changement, une volonté de revenir à une régie directe, etc., etc. Donc, on va dire que notre combat n'a pas été vain, mais il a été chronophage, fatigant et démotivant.
Oui, mais ça vous a quand même en effet permis de mettre la lumière, en tout cas via ce livre, sur beaucoup de choses. J'aimerais qu'on rentre du coup dans le détail de ce que vous avez étudié. Par rapport au menu proposé, quel a été votre constat? Alors déjà, est-ce que vous êtes concentré du coup de manière générale que sur le 18e arrondissement, ou vous avez essayé de faire une étude de plus grande ampleur?
Non, on s'est intéressé un peu à ce qui se faisait ailleurs, mais à Paris, parce qu'on essaye de comparer ce qui est comparable. La difficulté dans le 18e, c'est que on a, je vous ai dit, beaucoup d'enfants. C'est vrai que par exemple dans le 5e, je veux pas dire de bêtises, mais il y en a, je crois, 2000 par jour, peut-être 5 grand maximum. Mais bon, voilà, on est sur des échelles complètement différentes. Mais on a quand même regardé à population égale, le 15e par exemple, je suis désolée parce que j'ai plus les chiffres, ça commence à dater. En plus, j'ai pas du tout la mémoire des chiffres, mais en tout cas, je crois à entre 3 et 5 cuisines centrales. Vous voyez, là où nous, on en a une pour 14 000 élèves, il y en a entre 3 et 5, enfin, il y en a vraiment plus, et je crois quelques cuisines intégrées.
Et ces cuisines centrales, elles sont construites par la mairie, parce que vous dites, elles étaient vétustes, celles du 18e,
oui,
inappropriées.
Elles appartiennent à la mairie. Alors, certaines D'accord. cuisines centrales appartiennent effectivement aux sociétés de restauration collective. Mmh. À Paris, sauf erreur de ma part, si jamais il y a une ou deux exceptions, mais je ne crois pas, elles appartiennent à la collectivité. Et donc voilà, dans le 15e, en plus, elles étaient pour certaines beaucoup plus récentes. Il y en avait davantage. Certaines liaisons se faisaient en liaison chaude. Liaison chaude, c'est-à-dire que donc c'est le matin pour le midi. Toutes n'étaient certaines, je crois en plus que c'était le transfert se faisait dans des bacs en inox. Donc en fait, on a vu qu'il y avait vraiment des. En fait, on s'est dit, les petits Parisiens ne sont pas égaux devant l'alimentation. Dans certaines collectivités, ils mangent très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le champion, c'est quand même le 5e qui a établi. Alors encore une fois, c'est vrai qu'il y a moins d'enfants, mais
peut-être plus d'argent aussi.
Mais il y a aussi une vraie volonté politique, parce okay. que ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est que. La cantine en maternelle, enfin en élémentaire, donc maternelle et primaire, maternelle et élémentaire, n'est pas obligatoire. C'est un service que propose la mairie. Alors quasiment toutes les collectivités le font, mais ce n'est pas obligatoire. Donc il y a certaines collectivités qui se disent on propose à manger le midi, on est déjà bien sympa, on n'est pas obligé, donc faut peut-être pas non plus exagérer. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et puis après, il y a le fait de se dire, mais on a autre chose à faire. Sachant que quand même, à Paris, l'alimentation des enfants, la cantine, c'est l'une des rares prérogatives qui appartiennent en propre aux arrondissements. C'est-à-dire que il y a beaucoup de compétences qui sont centralisées, c'est-à-dire que c'est la mairie de Paris qui gère, mais la cantine, ça reste vraiment une prérogative. Une des dernières qui leur reste. Donc c'est aussi quelque chose qui nous choque, se dire mais comment peut-on avoir supprimé autant de compétences, parce que c'est une vraie question. C'est vrai qu'il y a certaines collectivités, depuis le temps qu'elles ont délégué, n'ont plus les compétences en interne. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est compliqué de revenir, mais sachant que c'est une des dernières prérogatives qui reste, on pourrait quand même penser que voilà, c'est quelque chose d'important.
Est-ce qu'il existe des cantines où il y a des cuisines sur place? Ou c'est toujours une cuisine centralisée?
Non, il y a des ben dans le 5e notamment, il y a une cuisine à proximité, il y en a quelques-unes. Alors c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, parce que il y a eu à un moment donné un afflux d'élèves, parce que à un moment donné dans les années 70-80, il y a eu des normes vétérinaires très strictes qui sont sorties, donc très vite certaines cuisines sont devenues vétustes. Il y a eu un faisceau d'éléments comme ça qui explique qu'à un moment donné, les écoles, les cuisines des écoles se sont fermées et qu'on a construit donc de grosses cuisines modernes, modernes en tout cas pour l'époque. Et donc, progressivement, il y a eu cette disparition, mais il y a encore quelques établissements scolaires où il y a encore des cantines. Alors, on y cuisine ou pas, mais en tout cas, il y en a encore. Nous, dans le 18e, on cumulait vraiment cette difficulté. Donc, je vous disais, donc cuisine centrale, une seule, vétuste, liaison froide. Et alors, tout à l'heure, je vous parlais des sauces. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'en liaison froide, je vous disais tout à l'heure qu'on cuisine les plats 3 à 5 jours à l'avance. Pour qu'un plat ne sèche pas et soit réchauffé 3 à 5 jours après, la sauce est indispensable, sinon ça sèche. Imaginez réchauffer du riz 3 à 5 jours après, s'il ne baigne pas dans la sauce, c'est pas possible, c'est pas mangeable. Donc on est obligé de proposer aux enfants des plats qui sont très souvent en sauce. Et quand on analyse les sauces, parce que ça fait partie de la démarche, là on tombe des nues, parce que ces sauces sont fabriquées avec des fonds de sauce industriels. Et quand on regarde la liste des ingrédients des fonds de sauce industriels, c'est bourré d'additifs en tout genre, avec des E dans tous les sens. Dans le livre, à un moment donné, je dresse la liste, et on voit que certains de ces E quelque chose sont fortement déconseillés aux enfants. Donc en fait, on marche complètement sur la tête.
Est-ce qu'il y a une différence du coup entre votre constat que vous avez fait alors dans le 18e, ce qu'on comprend qui est le plus affligeant, mais en comparaison avec le reste de la France, est-ce qu'on mange mieux en comparaison en dehors de Paris?
Alors, moi, j'ai vraiment pas fait une enquête circonstanciée parce que c'est trop compliqué. Hein. Il y a beaucoup trop d'enfants qui mangent à la cantine tous les jours. Il y a énormément d'écoles. Je pense que, alors oui, clairement, il y a des enfants qui mangent. Il y a pas d'égalité entre petits Parisiens. Donc, on peut se dire, a fortiori, il y a évidemment pas d'égalité entre petits Français.
Notamment la différence entre campagne et ville.
Voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans les campagnes, il est beaucoup plus facile de mettre en place des partenariats avec des producteurs, de mettre en place du circuit court. Alors, j'alerte quand même attention au circuit court parce que ça, c'est souvent, voilà, quand vous entendez circuit court, on peut à la fois se réjouir, mais il faut toujours garder une petite lanterne allumée parce que circuit court, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Vous pouvez être en circuit court avec la Chine. Si jamais il n'y a qu'un seul intermédiaire entre votre producteur chinois et vous, on peut être en circuit court. Oui. Donc, faut faire vraiment attention aux mots et toujours aller voir ce qu'il y a derrière les mots.
Et on peut être en circuit court avec de la nourriture industrielle et conventionnelle.
Faut savoir ce qu'on met derrière le mot circuit court. Et puis, il faut aussi savoir ce qu'on met derrière, vous savez, le local, parce qu'en fait, il n'y a pas de distance juridique, en fait. Quand on dit on est en produit local, on peut être à 200, 300 kilomètres et considérer qu'on est en local. Donc, voilà. Surtout, faire toujours très attention à tous ces mots, tous ces labels, toujours aller chercher ce qu'ils veulent dire. Mais on peut dire, a priori, que dans les campagnes, on mange mieux. Maintenant, c'est pas une obligation parce que certaines petites collectivités, justement, comme elles ont peu d'élèves, peuvent se regrouper et faire appel à des prestataires privés.
D'accord.
Donc, on pourrait dire qu'il y a une présomption de mieux manger dans les campagnes parce que c'est plus facile. Mais vraiment, j'insiste, ce qui est important, c'est la volonté politique. S'il y a une volonté politique qu'on a en zone rurale, ça va être plus simple à mettre en place. Si on est en zone rurale mais qu'il n'y a pas de volonté politique, les enfants peuvent manger aussi mal.
Donc, c'est au final quand même aux parents d'aller voir ce que les enfants mangent un peu partout. Parce qu'on donne toujours l'exemple de Mont-en-Sartou qui est cette...
D'ailleurs, j'en profite pour passer le bonjour à Gilles Perrol qui est l'adjoint et qui s'occupe de Mont-en-Sartou qui est vraiment un super exemple. C'est pas la seule, mais oui, Mont-en-Sartou, c'est l'exemple. Pardon, je vous ai coupé, Fanny.
Non, aucun problème. D'une cantine 100% bio, il me semble, et circuit court avec des repas de
même
qualité.
Quasi en autosuffisance. Eux, ils ont vraiment poussé à bout la logique. Voilà, exactement.
Qu'en est-il depuis la loi Egalim? Donc, ce qui m'a marqué, c'est que vous nous avez parlé là de ces grands bacs en plastique avec des opercules en plastique. Il me semble justement que cette loi Egalim a mis fin, enfin souhaite mettre fin. Je sais plus quelle est la date, mais c'est peut-être 2025. Où en est-on aujourd'hui depuis cette loi?
Alors, j'ai rejeté un petit œil hein, parce que je veux pas mentir à nos auditeurs. C'est vrai que tout ça est un peu loin, mais donc j'ai re-regardé les dates. Donc, il disait que d'ici 2022, au 1er janvier 2020, donc l'année dernière, normalement, tout ce qui était ustensiles à usage unique en matière plastique étaient interdits, sauf biosourcés. Et qu'au plus tard, au 1er janvier 2025, là, c'était tout ce qui était contenant alimentaire de cuisson et de réchauffe ou de service devait être interdit. Alors, donc, on n'est pas encore en 2025. Alors, nous, il y a une évolution. Effectivement, depuis l'année dernière, ou un petit peu plus, je sais plus, on nous a dit, on supprime les barquettes en plastique pour des barquettes biosourcées. Alors là encore, c'est du super greenwashing.
Tout à fait.
Barquette biosourcée, on garde l'opercule en plastique par-dessus. Donc de toute façon, ça change rien. Et biosourcée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des matières qui vont être issues, alors oui, effectivement, peut-être de végétaux divers, mais alors dedans, ça peut être fait avec du soja OGM qui va être aggloméré. Enfin, et donc, en fait, toute cette matière va être agglomérée avec des cols. Donc en fait, et d'ailleurs j'étais allée au salon de la restauration collective en 2018 avec justement un papa ami du collectif. Alors on s'était pas présenté, on était là comme des touristes, on va dire comme des gens du secteur, comme des visiteurs. Et on était allé voir justement des fabricants de matériaux biosourcés qui nous ont quand même avoué que bon, finalement, on remplaçait des perturbateurs endocriniens par d'autres perturbateurs endocriniens. Donc c'est formidable. Donc en fait, voilà, les matières biosourcées contiennent autant de perturbateurs endocriniens que les barquettes en plastique. Ça, c'est la première chose.
Et j'ajouterais même que l'ADEME, qui est donc l'Agence publique de développement de l'énergie, a fait une étude qui montre que potentiellement l'impact environnemental est plus fort pour ce qu'on appelle en effet le plastique biosourcé, parce qu'on utilise typiquement des matières premières, et que ces matières premières, il faut les faire pousser, et que l'agriculture a un impact très important.
Absolument. Donc, absolument. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on dédie quand même des chantiers à des matières ou des végétaux qui sont destinés à être détruits après consommation, ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, au lieu de nourrir la population, on va utiliser des champs pour fabriquer des barquettes à usage qui vont durer quoi, qui vont être détruites après quelques minutes. Et puis après, on nous dit que c'est compostable, ce qui est pas vrai en fait. C'est très mal compostable, ces matières. Donc en fait, ça va finir pareil, brûlé, incinéré.
Parce que, alors là, ça m'interroge ce que vous dites. Ces grandes barquettes en plastique, elles sont pas réutilisées derrière, elles sont immédiatement jetées après le repas?
Alors écoutez, je veux pas dire de bêtises, mais en fait, on nous vante du compostage, ce qui est en fait les études qui ont été faites. Mais là, vraiment, je veux pas rentrer dans les détails parce que je suis pas une spécialiste. Mais là, vous pourriez avoir zéro déchet sur cette question.
Zéro waste. J'ai fait un épisode avec les alchimistes qui expliquaient qu'en effet, dans le biosourcé, il y a du compostable, il y a du non compostable.
Voilà, parce que tout n'est pas compostable. Je crois qu'en plus, c'est compliqué. Enfin, en fait, au final, je crois qu'il y a très peu de barquettes qui sont compostées et qui finissent finalement enfouies, incinérées. Donc en fait, c'est un non-sens. Et puis du coup, on met en place un système de collecte. Enfin, je veux dire, alors que si on avait des contenants en inox, une fois qu'ils sont vides, on les lave, on les réutilise. Enfin, je veux dire, tout ça est un non-sens.
Bien sûr. Et par rapport au reste de la loi Egalim, donc pour rappeler le contexte, donc on est après les états généraux de l'alimentation il y a quelques années. Et cette loi, elle vise aussi à assurer plus de bio dans les cantines, en tout cas plus de produits labellisés. On en est où aujourd'hui par rapport à ça?
En fait, le contexte social est compliqué. Il n'est pas en train de s'arranger. Pour beaucoup d'enfants, la cantine, c'est souvent le seul repas équilibré de la journée. Et donc voilà, il y a beaucoup d'enfants qui le repas de la cantine, pour qui c'est le repas où ils vont déjà manger à leur faim et ils sont censés avoir un repas équilibré. Et au nom de ces enfants-là, on peut pas se permettre de leur servir ce qu'on leur sert aujourd'hui. Egalim, sur le principe, bien sûr, on va dire c'est très bien, on veut 50% de produits de qualité, on veut du label, on veut du durable. Nous, on invite toujours les parents, quand je dis nous, les parents du collectif notamment, à aller regarder ce qui se passe derrière les labels. Parce qu'il ne faut pas que les labels nous empêchent de réfléchir. Nous, on a vu fleurir, donc après le début du combat, des labels bio partout. Formidable. Les parents puissent se dire, oh, c'est formidable, les enfants mangent bio. Mais un label bio, qu'est-ce que ça veut dire? Si un label bio, alors déjà, si c'est pour donner du label bio qui vient de l'autre bout du monde, Chine ou même plus près, hein, je veux dire Espagne, Pologne. Déjà, il y a un coût environnemental, c'est-à-dire que ces produits viennent de loin, donc on n'est pas du tout dans une logique durable, on n'est pas dans une logique de proximité. Après, c'est vrai qu'en France, on a un souci, c'est que on n'a pas encore suffisamment d'agriculteurs qui ont pérenne conversion, et c'est vrai que la demande est plus forte que l'offre. Et puis, bio, ça veut dire quoi? Je me rappelle toujours de cette phrase de Valérie Jacquier, donc la nutritionniste dont je vous parlais, qui me disait, mais vous pouvez manger une pizza bio le midi et une choucroute bio le soir, c'est pas pour ça que vous allez manger équilibré. Dans la tête des gens, à partir du moment où c'est bio, c'est bon pour la santé. Ben non, en fait, bio, c'est pas forcément bon pour la santé. Alors certes, il y a moins de pesticides, il y a moins de perturbateurs endocriniens, il y a moins d'additifs. Donc évidemment, mon but n'est surtout pas de jeter l'opprobre sur le bio. Je suis moi-même, je fais très attention à consommer bio. Donc on est bien d'accord. Mais bio, ça doit pas empêcher de regarder ce qu'il y a dans l'assiette
bien
des
sûr.
Enfants. Et il y a énormément de bio industriel. Et vous savez que justement avec la loi Egalim, l'idée c'est d'apporter plus de repas végétariens dans les assiettes des enfants. Quand je suis allée avec ce papa à ce fameux salon sur la restauration collective, vous pouvez pas imaginer les catalogues des des prestataires, donc des de tous les industriels de l'agroalimentaire spécialisés dans l'alimentation, leurs catalogues se sont enrichis de pages de repas végétariens, c'est incroyable. Mais c'est de la nourriture industrielle. Donc le bio-industriel, alors il y aura peut-être moins de saloperies, mais ça restera une alimentation qui est vide.
Trop sucré, trop salé, moins de nutriments.
En fait, pas. En fait, ce dont on s'est rendu compte en travaillant, on a demandé les fiches techniques des aliments, des repas, qu'on a eu au début, qu'on a eu assez facilement. Puis bizarrement, au fil du temps, on a eu beaucoup de mal à les avoir. C'est quoi la fiche technique ? En gros, on a demandé aux prestataires de nous dire, envoyez-nous, voilà, aujourd'hui, les enfants ont mangé des allumettes végétales bio. Alors, quand on a vu la photo, je vous assure, on aurait dit, vous savez, Sheba. Le Sheba pour les chats, là, vous savez, la nourriture qu'on donne aux chats pour leur dire je t'aime, voilà. Et c'était ça, la pub Sheba pour dire je t'aime. J'ai été marquée par la pub de mon époque. Je suis plus vieille que vous, c'est pour ça. Non, mais c'était vraiment ça. C'était de la pâtée pour chat. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On a demandé à voir la fiche de ce repas. Et c'était bio. On s'est dit, ah, mais quand même, c'est bio et tout. Ah, bah, c'est super. Envoyez-nous cette fiche. Qu'est-ce que c'était ? Je crois que dans le livre, on l'a reproduite, hein, cette fiche technique. On s'est rendu compte que c'était de la calorie vide. C'est quoi de la calorie vide ? Est-ce que vous savez, Fanny, ce que c'est que de la calorie vide ?
Du sucre ?
Alors, bah, en fait, voilà, notamment la calorie vide, en fait, c'est-à-dire que c'est une calorie dedans, on n'a pas de nutriments, pas de vitamines, on a, en fait, rien n'est vivant, tout est mort, tout est vide. Les enfants, quand ils grandissent, ils ont besoin de nutriments, ils ont besoin de vitamines, ils ont besoin de fibres, ils ont besoin de tous ces composés qui font qu'un aliment va lui faire du bien et va l'aider à grandir. Là, c'était de l'amidon, de l'eau, du sucre. Enfin, voilà, que uniquement des calories vides, mortes, du produit recomposé. Et quand on a vu ça, on s'est dit, ah, mais c'est ça qu'on file à nos gamins. Oh. Et en plus, c'est bio. Mais en plus, le pire, c'est que, avec une certaine bonne foi, la directrice de la caisse des écoles de l'époque nous a dit, mais c'est bio. Mais voyez, c'est ça dans la tête des gens, c'est bio. Donc, c'est bon. Bah, non, allez voir ce qu'il y a derrière le bio. Et une dernière petite parenthèse, toujours donc dans ces labels que nous vend Egalim, on nous vend donc des produits, donc label rouge, hein, HVE. Dedans, il y a le HVE qui signifie haute valeur environnementale. Là, c'est un label qui est promu par le ministère, vous devez bien le connaître, de l'agriculture. Mais HVE, ça veut dire quoi, HVE? C'est un label donc qui... comment dire ? Je veux pas être méchante.
Disons, on peut dire les choses.
Allez, on va dire les choses. Ben, c'est un label, en fait, qui ne garantit absolument pas qu'il n'y a pas de pesticides. C'est juste pour dire, c'est a priori, vous l'avez étudié, peut-être vous voulez en dire deux mots parce que vous le connaissez peut-être mieux que moi, mais voilà, c'est juste un label qui montre que peut-être l'agriculteur essaye de faire des efforts dans son champ, mais qui ne garantit absolument pas l'absence de pesticides, sachant que dans le bio, de toute façon, on retrouve aussi certaines traces. C'est pas non plus du 100% sans pesticides, le bio, hein.
Ouais, parce que de toute façon, l'environnement est pollué de manière massive aux pesticides. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que nous, c'est un peu aussi notre fer de lance qui est de dire un label, ça peut être génial. Quand il y a un cahier des charges restrictif et on a des labels de très haute qualité comme Déméter, Nature et Progrès, Biocohérence, etc. Mais ça peut aussi être un cahier des charges où il y a deux, trois obligations. Et alors, en effet, HVE est extrêmement décrié. L'autre exemple, c'est le label Bleu Blanc-Cœur, qui est un label créé par des industriels. Je pense qu'à mon avis, on doit les trouver dans les cantines scolaires, qui a seulement comme obligation de nourrir des animaux avec des graines de lin pour les oméga-3. Mais il n'y a aucune obligation derrière. Donc, on a des poulets élevés en cage, on a de l'élevage intensif, mais ils sont bleu blanc-cœur parce qu'on leur a donné du lin dans leur alimentation.
Et les industriels comprennent bien l'intérêt du bio, donc font énormément de pression pour en plus faire baisser le cahier des charges du bio régulièrement. Oui. Alors, je vous en parlais tout à l'heure avant le début de l'émission, j'invite tout le monde, même si ça ne concerne pas les cantines. Il y a en ce moment sur Arte un documentaire qui s'appelle La Grande Malbouffe, je crois. Donc vous pouvez voir que j'ai regardé hier, qui est hallucinant et qui montre aussi comment les industriels verdissent leurs étiquettes. Alors par exemple, ils vont indiquer sans huile de palme, mais par exemple sur un produit qui n'a jamais eu d'huile de palme. Vous voyez, et pareil, alors ils parlaient d'agent de texture, ou qu'est-ce que c'était ce terme, j'ai oublié, qui n'apparaissent pas sur les étiquettes. Là, il montrait par exemple une colle qu'on va mettre dans les... Vous savez, quand il y a des morceaux de viande et on veut les reconstituer en rôti, on met une colle qui permet de reconstituer le rôti. Et à la cuisson, cette colle disparaît. Et comme on n'en retrouve pas trace une fois que c'est cuit, ce n'est pas indiqué sur les étiquettes. Mais c'est pas parce que c'est pas indiqué, c'est pas parce qu'on n'en retrouve pas trace qu'à un moment donné, ça va pas impacter la nourriture.
Bien sûr, bien sûr.
Donc en fait, moi, hier, à la fin de ce documentaire qui prend comme fil rouge le cordon bleu, je me suis dit à quel point, mais en fait, il faut, à ce jour, en tout cas, à moins qu'il y ait d'énormes progrès par la suite, il faut vraiment bannir la nourriture industrielle.
Oui, c'est ça, en fait. Et je pense que c'est j'espère en tout cas que certaines entreprises comme Yuka ont un peu aidé à ça ou à comprendre que en effet l'industriel qu'il soit bio ou pas, c'est trop de sucre, trop de sel, pas de nutriments et que en fait il y a pas de secret, faut cuisiner des produits bruts.
Absolument, et Nutri-Score pour ça est intéressant parce qu'encore une fois Nutri-Score est une très belle avancée. La personne qui est à l'origine de ça voilà est quelqu'un de vraiment très bien, mais encore une fois, faut pas s'arrêter non plus à Nutri-Score parce que Nutri-Score c'est pas parce que le produit est équilibré nutritionnellement qu'encore une fois on va avoir de la calorie pleine, qu'on va avoir des fibres. Il y a Anthony Fardet qui est un ingénieur qui travaille sur justement qui a beaucoup travaillé sur les produits ultra transformés. L'explique très bien. En fait, il faut pas juste s'arrêter au label. Il faut toujours faire attention à ce qu'il y a derrière un label, réfléchir. Et moi, l'enseignement que je tire de tout ça, c'est de revenir à une alimentation la plus simple possible. Acheter les produits les plus bruts possibles, recuisiner, même si c'est pas des grands plats. Moi, je veux dire, je suis pas une grande cuisinière. Mais voyez, par exemple, moi, je n'achète plus de gâteaux industriels. C'est vrai qu'avant, moi, mes enfants, pour le goûter, j'avais tendance, comme beaucoup de parents, et vraiment, je jette pas la pierre, j'étais comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est facile, c'est vrai qu'on travaille, c'est vrai que tout ça. Mais voilà, j'achetais un paquet de gâteaux, et puis, au goûter, mes enfants avaient des biscuits. Mais moi, aujourd'hui, je fais mes gâteaux moi-même. Déjà, ça me coûte moins cher. Et puis, finalement, mon gâteau, il fait à peu près la semaine. Souvent, je le fais le dimanche. Mes enfants sont super contents, on le fait ensemble. Et j'ai vraiment revu de A à Z mon alimentation en m'intéressant aux cantines. Ça allait beaucoup plus loin que la cantine, en fait. Ça a complètement... pourtant, j'étais quelqu'un qui faisait quand même relativement attention, hein. Mais vraiment, j'ai revu mon alimentation et aujourd'hui, je suis vraiment sur du brut, quoi.
Et la cantine de vos enfants, est-ce qu'elle s'est améliorée à la suite de ce livre ?
Alors, à ce jour, non. Maintenant, donc il y avait une promesse électorale de la part donc du maire sortant qui a été réélu. Il y a des scénarios de changement qui sont en train d'être mis en place. Ils réfléchissent. Alors tout en haut de la chaîne, il y a revenir à une régie directe. Enfin voilà, il y a tout un tas de scénarios qui sont en réflexion. Donc on attend de voir ce que ça va donner. On a conscience que ça va être sans doute un peu long parce qu'effectivement, on sort pas d'une délégation de service public comme ça, surtout quand il y a plus de compétences en interne. Encore une fois, j'insiste. À voir ce que ça va donner.
C'est quand même long parce que
c'est très long.
Vous avez sorti le livre en 2018, on est en 2021, il y a toujours pas de changement.
Alors à ce jour, non, il y a des réflexions. Voilà. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que c'est fatigant. C'est-à-dire que là, tous les gens du collectif, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est un peu en train de fatiguer parce que ça a été pendant 2 ans, mais on était tous les jours en contact, à envoyer des mails, à aller en commission, à suivre. Faut avoir du temps, hein.
Bien sûr.
Ça demande du temps.
Vous avez milité.
Ça demande du temps de militer. mais voilà, bon, bah, écoutez, peut-être qu'on va s'en sortir. Alors bon, bah, pour nos enfants, je sais pas ce que ça va donner, mais
du problème. Est-ce qu'ils continuent à vouloir manger à la cantine ou certains enfants ont dit bon, bah, non?
Alors, il y a des parents qui s'arrangent qui s'organisent pour sortir. Est-ce que les enfants en ont conscience? Alors, moi, je sais que du coup, les miens, ils sont quand même du coup très sensibilisés à l'alimentation. Alors, peut-être que c'est pas non plus le cas de tous les enfants. Non, ce qui est juste triste, c'est que de toute façon, comme c'est pas bon, les enfants ne mangent pas. Il y a un gaspillage qui est énorme. Alors, je sais pas s'ils en ont conscience. Peut-être un petit peu plus maintenant, parce que comme ça a fait beaucoup de bruit.
Sur le gaspillage alimentaire, en tout cas, ça s'est pas amélioré. Parce qu'en effet, un des chiffres effrayants que vous donnez dans votre livre, c'est que 25% d'un plat servi à la cantine est jeté.
Eh ben, écoutez, là, j'ai trouvé hier une étude de l'ADEME d'octobre 2020. donc qui est plus récente, et qui dit que sur 100 grammes de nourriture, sur chaque repas, il y a 100 grammes de nourriture qui est jetée, soit 110 000 tonnes par an. Et sur ces 110 000 tonnes, on a environ 30%, ce sont les accompagnants. Donc, vous avez, je sais pas, les légumes, les frites, tout ça. Enfin, les frites, en général, c'est pas jeté. Et 20% des entrées.
D'accord, oui. Donc, c'est complètement effrayant.
C'est énorme. C'est énorme.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle pour améliorer la cantine collective? C'est peut-être ce que vous disiez un peu au début, c'est-à-dire aller se renseigner et aller voir concrètement ce qui se passe, voir les élus. Enfin,
j'ai une maman qui m'a envoyé justement un mail à ce sujet l'autre, il est très très récemment, et je lui ai dit, écoutez, moi, ce que je vous conseille, première chose, essayez d'aller manger à la cantine. Ben, je crois que c'est cette maman d'ailleurs qui m'a dit que c'était très compliqué, qu'elle n'y arrivait pas. Mais bon, normalement, en payant le prix, on devrait y arriver. Donc, allez manger. Ensuite, essayez d'aller visiter la cuisine. Est-ce que c'est une cuisine centrale? Est-ce que c'est une cuisine sur place? Quand vous allez visiter la cuisine, regardez. Vous savez que quand on est allé visiter la cuisine centrale, on nous a interdit de prendre des photos.
C'était facile d'aller visiter la cuisine?
Alors, au début, ça l'était, parce qu'il y avait régulièrement des rendez-vous. Hein. Effectivement, on peut pas y aller comme ça. Et puis, au fil du temps, il y avait moins de rendez-vous. Et puis après, c'était moins de personnes, si vous voulez. Petit à petit, en fait, les verrous ont été mis. Bon, j'imagine que là, en temps de Covid, c'est sûr que ça doit pas être simple. Mais voilà, allez voir ce qu'il y a dans la cuisine. Est-ce qu'il y a des ustensiles pour cuisiner dans la cuisine? Ou est-ce qu'il y a juste des ouvre-boîtes et des... Vous voyez, est-ce qu'on peut cuisiner ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans l'épicerie? Est-ce qu'il y a des fonds de sauce industriels? Ou est-ce que voilà, il y a des vrais produits pour cuisiner? Est-ce qu'il y a beaucoup de surgelés? Est-ce qu'il y a des boîtes? Et puis, constituez-vous en collectif, parce que tout seul, déjà en collectif, c'est chronophage, c'est fatigant. Mais tout seul, c'est pas possible. Hein. Enfin, à moins d'avoir une Wonder Woman ou un Superman, je pense que c'est très compliqué de se battre tout seul. Et puis après, évidemment, entamer un dialogue avec la mairie, avec les élus. Voilà.
C'est la seule possibilité, c'est de faire pression sur les élus aujourd'hui.
Bah, disons, comme ce sont eux qui ont les rênes de la cantine. Alors là, je parle pour les élus, pour en tout cas la collectivité, la mairie, c'est la mairie qui gère tout ce qui est maternelle et élémentaire. Ensuite, le collège, c'est le conseil, enfin, c'est le département, et les lycées, c'est la région.
D'accord.
Et ensuite, la fac, c'est le CROUS, mais bon, en général, c'est rare que les parents se battent à la fac. En général, on est
pourtant, les étudiants,
et pourtant, ils mangent même, je crois que c'est même pire. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas mieux. Voilà, pardon. Je veux pas asséner de choses que je suis pas forcément allée vérifier, mais.
Et faire pression sur les industriels, c'est possible?
À partir du moment où il y a de la demande, à partir du moment où les élus, oui, ça c'est une chose qu'on n'a pas abordée mais qui est importante, si vous voulez. Quand on est en délégation de service public, on fait appel à des industriels. Si derrière on va pas contrôler son industriel, il fait ce qu'il veut. Mais pour ça, faut des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un cahier des charges extrêmement strict avec, je sais pas moi, que du bio, que du circuit court, que des labels, tout ce que vous voulez. Si derrière la mairie va pas vérifier concrètement, dans la cuisine, que son prestataire respecte, et s'il ne colle pas des sanctions derrière, s'il ne respecte pas, le prestataire, il fait ce qu'il veut. Donc, on peut finalement, on peut pourquoi pas être en délégation de service public si on a un cahier des charges très strict et qu'on va contrôler. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de contrôle. Donc,
ouais. Puis on se retrouve avec des aiguillettes végétales.
C'est ça. Allumettes.
Allumettes, pardon. Merci beaucoup, Sandra.
Avec plaisir, Fanny. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.